suis directrice de l'école élémentaire d'application Henri Barbusse à Romainville, en Seine-Saint-Denis, sur l'académie de Créteil. Donc, c'est une école qui accueille 242 élèves. Elle est composée de 10 classes et d'une unité pédagogique d'enseignement adapté pour les élèves allophones, c'est-à-dire qu'elle accueille des élèves venant de pays étrangers ne parlant pas le français. Donc, en fait, je viens vous présenter un projet qui a débuté il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, c'est un projet récent. Et je tiens à vous préciser que je ne suis pas du tout experte des nouvelles technologies. Donc, en fait, ce qu'on a monté sur l'école est tout à fait adaptable sur d'autres écoles sans compétences particulières, on va dire, sur les nouvelles technologies. Alors, avant d'arriver sur l'école en septembre 2012, j'ai été enseignante formatrice dans une école située en zone d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis et j'avais en charge une classe de CP. Et j'ai mis en place l'enseignement du jeu d'échecs sur cette classe de CP. Donc c'était décliné en 2 temps, un temps d'enseignement et un temps de pratique en classe. Et puis j'ai participé aussi dans le cadre de l'accompagnement éducatif, c'est un dispositif pour les écoles situées en zone d'éducation prioritaire, à des ateliers de jeux d'échecs pour des élèves de cycle 3, c'est-à-dire des élèves de CE2, CM1, CM2. Et durant ces années d'expérience, j'ai pu voir combien, en fait, à travers le jeu et le jeu d'échecs, les élèves arrivaient à construire des compétences qui étaient inscrites dans les programmes de l'école primaire, des compétences disciplinaires, mais aussi des compétences de savoir-être, dont je reviendrai un peu plus tard dessus. Donc, quand je suis arrivée sur l'école Henri Barbusse, je souhaitais en fait mener une réflexion autour de l'enseignement du jeu des échecs dans les classes. Et donc, j'ai partagé mon expérience et j'ai proposé mon aide aux enseignants qui souhaitaient en fait mettre en place cet enseignement sur leur classe. Alors, à ma grande satisfaction, en fait, tous les enseignants de l'école ont souhaité en fait participer à ce projet. Donc, ce que je pensais être un projet de classe, s'est transformé très rapidement en projet d'école. Alors, un projet d'école qui concernait donc tous les élèves de l'école, c'est-à-dire des petits de 6 ans, en CP, jusqu'à l'âge de 11-12 ans pour des élèves de CM2. Alors, pour travailler quelles compétences? Alors, des compétences d'ordre disciplinaire, que ce soit en maîtrise de la langue, acquisition de vocabulaire, être capable de s'exprimer clairement, d'expliciter, d'argumenter. Des compétences d'ordre disciplinaire au niveau mathématique. Alors, voir des élèves de 6-7 ans construire la notion de rangée, colonne, horizontale, verticale et diagonale, en fait, sans s'en rendre compte. Donc, on n'a même plus besoin de faire de leçons dessus, parce qu'en fait, ils ont réussi complètement à acquérir ces notions dans le jeu. On pourrait parler aussi de la construction de l'espace, être capable de se repérer sur un quadrillage et d'avancer sur un quadrillage. Donc voilà. Et puis, des compétences surtout de savoir-être. Et elles sont très importantes puisqu'elles vont se retrouver dans toutes les autres disciplines. Alors, être capable d'analyser une situation, de s'engager dans une réflexion collective, être capable de respecter les règles, respecter l'autre, prendre des initiatives, persévérer. Donc, toutes ces compétences qui, en fait, sont extrêmement importantes et se retrouvent dans toutes les disciplines. Alors, ce projet s'est construit selon 4 axes. Le premier, ça a été de légitimer en fait cet enseignement auprès des enseignants. Effectivement, dans les premiers échanges que nous avons pu avoir, il y avait en fait un argument qui revenait et qui était vraiment une inquiétude chez les enseignants. C'était oui, d'accord, nous allons proposer une activité ludique, mais et les programmes, mais et l'inspecteur, mais et les parents. Donc, effectivement, il a fallu là les rassurer et leur faire comprendre qu'ils n'allaient pas simplement proposer une activité ludique annexe des programmes, mais qu'ils allaient répondre à des préconisations institutionnelles. Donc là, je me suis tournée vers les textes officiels. Alors, on a en fait, dès 2011, la Commission du Parlement européen qui, en fait, incite les États membres de l'Union européenne à favoriser les activités du jeu d'échecs dans les écoles, argumentant en fait qu'elle permet de développer des compétences d'autonomie, de créativité, de motivation, et qu'elle favorise aussi la cohésion sociale. Alors, cet avis de la commission a été appuyé par la convention que l'éducation nationale a passée le 31 janvier 2011 avec la Fédération française des échecs. Et elle a été encore appuyée par la circulaire sur le jeu des échecs à l'école le 12 janvier 2012. Donc en fait, là, j'avais rassuré les enseignants, on pouvait s'engager sereinement dans le projet. Alors ensuite, il a fallu former les enseignants. En fait, sur l'école, sur les 13 enseignants à l'époque, deux seulement avaient une bonne connaissance du jeu. Donc, former les enseignants, là, je me suis tournée vers un des partenaires qui était la ville de Romainville, qui mettait en pratique sur le temps méridien des ateliers jeux d'échecs qui étaient pris en charge par un animateur faisant partie d'un club d'échecs. Donc en fait, il est intervenu sur l'école pour former à minima en fait les enseignants pour qu'ils puissent en fait mettre en place cet enseignement dans leur classe. Alors, on peut se tourner vers d'autres partenaires. Nous, ça tombait bien, il y avait cet atelier jeu d'échecs sur le temps méridien sur la commune. Mais vous pouvez effectivement vous retourner vers les académies ou la Fédération française des échecs qui peut mettre à disposition en fait, des intervenants pour aider les enseignants à mettre en place cette activité dans les écoles. Ensuite, il a fallu accompagner les enseignants dans leur classe. Il fallait trouver des ouvrages pédagogiques, on va dire, faciles d'accès, parce que les échecs, ça fait peur. C'est un jeu qui semble très sérieux, compliqué. Les ouvrages que l'on peut trouver dessus sont parfois, même souvent, rebutants. Et il n'était pas du tout question de mettre en difficulté les enseignants. Ils avaient déjà à apprendre un jeu. Ensuite, il fallait qu'ils l'enseignent. C'était pas pour eux, c'était un peu une angoisse. Donc, on a trouvé des ouvrages qui répondent tout à fait en fait aux attentes des enseignants, c'est-à-dire les objectifs sont clairement définis, on a les séquences et les séances qui sont, on va dire, toutes prêtes. Et puis, on a aussi accompagné les enseignants dans la mise en place de l'activité dans leur classe. Là encore, on a fait appel aux partenaires de la ville de Romainville qui a eu la gentillesse de nous permettre d'avoir les compétences de l'animateur sur le temps scolaire quand les enfants jouaient. Et puis le dernier axe, ça a été d'équiper l'école, parce que faire jouer 242 élèves, eh ben, il faut forcément des jeux. Enfin, on n'avait pas du tout prévu qu'il y en aurait autant qui joueraient. Donc là, on s'est tourné vers d'autres partenaires. Le premier, ça a été en fait la circonscription de Romainville, avec notre inspecteur, M. Vanetti, qui nous a mis en contact avec l'USAP 93, qui organise des tournois d'échecs, et qui nous a prêté un nombre très conséquent de jeux, ce qui nous a permis en fait de faire jouer tous les élèves de l'école. Alors, dès la première année, nous avons inscrit les élèves de CM1, CM2 sur une plateforme de jeux en ligne, donc le site MatPat. Donc, en fait, c'est un site qui est très intéressant pour une école parce qu'il est peu cher, 30 € pour l'adhésion pour pouvoir faire jouer tous les élèves d'une école. Alors, en fait, ils peuvent jouer en ligne aux échecs, donc dans l'école, en rencontrant des élèves de l'école, mais aussi en rencontrant des élèves d'autres écoles. Ils peuvent jouer à la maison, et là c'est très intéressant de voir en fait un enseignement dispensé à l'école entrer dans les familles et continuer à vivre dans les familles. Et on a des élèves qui disent en fait qu'ils se donnent rendez-vous à certaines heures pour pouvoir jouer via le site MatPat. Et puis on peut aussi participer à des tournois, ce que nous avons fait dès la première année où nous avons participé au tournoi de l'Académie de Créteil, puis la deuxième année au tournoi de France. Alors, dès la deuxième année, nous nous sommes retrouvés confrontés à des problématiques qu'on n'avait pas envisagées au départ. Ça a été comment en fait faire évoluer cet enseignement dans la mesure où, à la fin de la première année, eh bien, beaucoup d'élèves avaient une bonne maîtrise en fait des bases de ce jeu. Enfin, que proposer à un élève qui n'adhère pas du tout au jeu des échecs? Que proposer aussi ou comment aider l'enseignant qui lui non plus n'adhère pas tellement à ce jeu? Et puis ensuite aussi, comment accueillir et comment faire entrer ces nouveaux collègues, puisque nous sommes sur une école où la moitié de l'équipe change chaque année. Donc la première année, tout le monde avait eu la formation, mais les autres années, que fait-on en fait de ces nouveaux collègues? Et c'est un véritable problème. Alors, nous avons fait appel là de nouveau à un partenaire qui est l'Académie de Créteil. Nous avons eu la participation de Jérôme Moufra, qui est chargé de mission Jeux de l'Esprit sur l'Académie de Créteil, qui est venu et qui nous a fait, qui nous a aidé à faire évoluer ce projet. Et notamment, nous avons introduit la dimension maîtrise de la langue dans les jeux, en fait, que nous avons introduit dans l'école. C'est une dimension importante puisque c'est le projet académique de l'Académie de Créteil. Je vous rappelle, on est sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est un axe très important. Alors, nous avons introduit le Scrabble, le Boggle, et puis le Top World, les mots croisés, et puis d'autres jeux de stratégie. Donc, on a les dames, on a le Rummy Cube, on a les Sudoku, le Mastermind. Voilà. Et on a aussi développé l'utilisation en fait du site MatPat. Alors, il se trouve que cette année, nous nous sommes retrouvés, on va dire, sans salle informatique pendant plusieurs mois, puisque celle-ci avait besoin d'être remise aux normes. Donc, nous n'avons pas pu nous inscrire au tournoi comme nous l'avions fait les deux premières années. Alors, pour autant, depuis qu'on l'a récupéré, nous avons en plus, en fait, maintenant, toutes les salles de classe qui sont connectées. Donc, nous avons mis des ordinateurs en fond de classe. Et maintenant, nous utilisons ceci pour pouvoir organiser des rencontres interclasses. C'est-à-dire que nous avons défini un temps de jeu identique pour toutes les classes de cycle 3. Donc, c'est le mercredi à 11h. Et donc, en fait, les élèves peuvent se connecter et jouer avec d'autres élèves d'autres classes. On pourrait envisager d'autres utilisations. En fait, on pourrait très bien faire jouer des classes les unes contre les autres via en fait les ordinateurs. Nous n'avons pas pu donc nous inscrire dans des tournois, donc nous réfléchissons pour la fin de l'année à organiser nous-mêmes un tournoi interne à l'école. Alors, nous avons de plus fait rentrer les CE2 dans l'utilisation du site. En fait, ce sont des élèves qui ont la pratique du jeu d'échecs maintenant depuis 2 ans. Donc en fait, ça nous semblait possible de leur offrir en fait la possibilité de jouer en ligne, ce qui nous semblait un peu plus difficile auparavant. Alors, quelles sont en fait les perspectives qu'on pourrait avoir par rapport à notre projet aujourd'hui? La première, ce serait d'ouvrir le projet au collège. Alors, ça a déjà été envisagé, ça n'a pas abouti. Pour autant, je pense qu'il faut le remettre la discussion sur la table de travail. Parce que dans le cadre de la liaison école-collège, je pense que c'est un projet intéressant. D'autant qu'en fait, le collège maintenant va accueillir cette année des élèves qui auront eu 4 ans de pratique de jeu, d'échecs, et puis maintenant d'autres jeux de l'esprit. Et puis, il y a le nouveau cycle 3 maintenant, donc qui est composé de CM1, CM2, 6e. Donc, on pourrait très bien envisager un projet de cycle à ce niveau-là. Et puis, ouvrir aux autres écoles. Alors, organiser nous-mêmes un tournoi pour ouvrir aux autres écoles de la ville, ou laisser ce projet à la circonscription, qui pourrait très bien ouvrir un projet de circonscription à ce niveau-là. Voilà. Et puis, d'autres perspectives, ça serait d'élargir en fait les pratiques du numérique à d'autres jeux. On le voit, nous utilisons des jeux de plateau classiques. Il n'est pas question pour nous de passer au tout numérique, parce qu'en fait, nous avons besoin en fait de proposer tout un tas de jeux et de les faire rentrer aussi dans les familles. Alors, les faire rentrer dans les familles par le numérique, mais aussi les élèves, il faut voir les élèves de CP qui demandent à Noël en fait des jeux d'échecs et pour pouvoir jouer avec les parents. Donc voilà, donc il se trouve que donc cette année nous avons effectivement 4 enseignants qui sont rentrés dans un groupe de travail autour des jeux numériques pour pouvoir en fait enrichir notre projet. Voilà.
Donc, je m'appelle Alexia Robert, je travaille au sein du rectorat, merci Sido, au sein du rectorat de Créteil. J'ai une très forte formation du numérique puisque je ne pense même pas approcher le micro. Et donc je travaille au pôle numérique au sein du réseau Canopé et l'une de mes missions est de développer les usages du jeu. Alors du jeu qu'il soit jeu sérieux, jeu numérique ou autre, mais en tout cas sous format numérique. Donc les questions de est-ce qu'on parle de serious game, serious gaming, quel est le nom, diverting, modding, ça c'est des notions très intéressantes depuis mon bureau, mais qui ne se heurte à la réalité du terrain. Parce qu'effectivement, si nous devions présenter les choses sous cet angle-là auprès des enseignants, je vais rebondir sur l'exemple cité de Dragon Box de tout à l'heure. Une de mes missions serait peut-être d'expliquer à mes collègues pourquoi, dans le cadre des usages du numérique, cette ressource est très intéressante. Elle permet de travailler les mathématiques sous un format intéressant et de développer des compétences spécifiques et en même temps de rendre autonome. Mais la réponse à laquelle je vais me confronter la plupart du temps, c'est oui, c'est génial, mais ton application, je n'ai pas de tablette, ou alors si j'en ai, ce sont des iOS et pas des Android. Et puis la particularité de à coût unitaire de x,99 € multiplié par le nombre d'élèves, sachant que je ne peux pas acheter de vrais livres, tu es bien gentille. Donc en fait, il faut savoir que on est pour ambition de faire entrer l'école dans l'ère du numérique, mais que le numérique peine un peu à rentrer dans l'ère de l'école, et que donc tous les enjeux vont être là, à la fois sur des enjeux pédagogiques et puis à la fois sur des choses qui sont très réalistes et très pragmatiques. Et ça va être cette ambivalence-là qu'il va falloir présenter. C'est pour cette raison-là que nous sommes nombreux à porter ce message du jeu numérique. Donc effectivement, nous sommes plusieurs collaborateurs, dont Axel Jean, qui est conseiller pédagogique de circonscription, et toute une liste d'interlocuteurs, effectivement, qui sont nombreux, parce que on a besoin de pouvoir fédérer, coopérer et mutualiser. Donc l'avantage, c'est que on est là pour vous présenter un projet qui commence, parce que le travail sur les jeux sérieux au sein de l'Académie de Créteil a débuté depuis de nombreuses années, puisque par exemple l'un des projets qui est le concours de création de jeux sous format numérique existe depuis 7 ans. Donc on est déjà dans une pratique avancée, c'était initié par un ancien collaborateur qui s'appelait Julien Lianas. Maintenant on est vers une démocratisation de ces ressources, et donc l'objectif, ça va plutôt être de fédérer et d'accompagner, parce que effectivement, comme cela a déjà été évoqué, tout se passe avant et après, c'est-à-dire il faut former les enseignants à cette scénarisation. C'est une ressource, ce n'est pas n'importe quelle ressource. Si les ressources numériques, qui peuvent être des ressources vidéo ou des ressources photos, sont déjà bien installées, la particularité du jeu sous format numérique a, elle, une liste de spécificités qu'il faut identifier. Et jusqu'ici, ce travail était particulièrement concentré sur les usages disciplinaires du second degré, mais qu'en est-il du premier degré? Donc nous avions besoin de pouvoir identifier des interlocuteurs. Et c'est grâce à mon collègue Axel, qui est là à côté, qui va se présenter quand j'aurai fini de parler. Et puis, au nombre d'initiatives qui peuvent s'accompagner, on a besoin de formateurs au numérique, donc de formateurs TIS, on a besoin de formateurs aux usages pédagogiques prioritairement, d'un conseiller en circonscription, et puis on a besoin de quelqu'un qui impulse et qui véhicule cette parole, et là-dedans, les relais institutionnels au niveau des DAZN sont aussi importants, parce que y a le jeu dans le jeu, et c'est la brillante idée qu'a eu Axel, c'est que le meilleur moyen de former au numérique et de former au jeu, c'est de faire jouer les enseignants, et ça a été le point de départ d'un projet qui commence cette année et qui a vocation à s'étendre.
Alors merci Axel Jean, donc je suis conseiller pédagogique de circonscription, donc pour le premier degré de l'Académie de Créteil, département de Seine-Saint-Denis, sur le territoire de Romainville et Lille près Saint-Gervais. Donc comme le disait Alexia, en fait j'ai pas le mérite de proposer cette cohérence de jeu, puisqu'en fait il y a déjà des pratiques de jeu qui se faisaient dans les établissements. L'idée là est autour d'une équipe constitué donc d'animateurs dont sous la direction en fait d'Alexia, avec l'accord d'un inspecteur de circonscription, monsieur Vanetti, sur notre territoire. Donc on est dans la même circonscription avec Cécile, et le soutien aussi d'un IUNT, parce que dans le premier degré nous avons aussi des IUN chargés sur des départements d'accompagner la politique, le déploiement du faire entrer l'école dans l'ère du numérique au titre du premier degré. Donc on avait le double accord de notre IUN de circonscription et de l'IUN sur TIS, madame Play, sur le département, pour commencer, amorcer un groupe, donc non pas d'experts, donc c'est même à ce titre-là qu'on a Cécile, c'est que Cécile est experte en pédagogie, elle a un retour d'expérience, une ancienneté par rapport à la pratique des échecs avec une partie numérique, et dans ce groupe, on a convié une dizaine d'enseignants sur notre territoire, avec des gens plutôt experts en TIS et pédagogues, et d'autres qui sont intéressés par le numérique, curieux, mais qui ne sont pas du tout des experts en numérique. Donc on a comme ça un groupe qui est très polyvalent, et de ce petit groupe de 10 enseignants, dans lequel il y a deux directeurs, une enseignante donc du PE2A, la structure qui accueille les élèves non francophones, allophones, et ensuite pour l'animation, il y a donc Alexia, Myriam Ahmed Zarzewski, qui travaille donc au Canopé de Saint-Denis, et surtout une personne très importante pour le premier degré, qui est Alexandre Plessis, qui est un animateur formateur TIS, c'est-à-dire que lui est expert en pédagogie et en nouvelles technologies, en fait. Donc c'est quelqu'un qui est très identifié sur la circonscription et qui est capable d'accompagner, y compris sur évidemment des problèmes technologiques, d'équipement, parce que dans le premier degré, n'oubliez pas que chaque commune est maîtresse chez elle, donc elle fait l'équipement comme elle le peut, comme elle le veut. Donc nous, sur notre petit territoire, nous avons 3 communes, et entre le Pré-Saint-Gervais, qui a un équipement très fort, très avancé par une volonté municipale, et Romainville, qui vient, mais avec un décalage, mais qui vient quand même, donc on en est ravis. Tout est très différent, vous traversez parfois une rue et vous basculez d'une école suréquipée, on va dire, même si suréquipée n'existe pas, à très peu équipée. Donc en fait, les profils sont très différents suivant les classes dans lesquelles vous êtes, et nous en sommes encore à devoir tenir compte des contraintes de matériel avant d'envisager de faire un projet.
Le projet académique. Oui, bah, effectivement, je pense que de toute façon, on l'a dit dans les grandes lignes, enfin, là, la question que tu viens de l'exposer, c'est à la fois de développer des usages du numérique et puis à la fois, effectivement, de développer des usages du jeu. La particularité étant qu'au sein de l'Académie de Créteil, jusqu'ici, on était sur le second degré et qu'en réalité, les modalités de scénarisation ne vont pas être les mêmes parce que ben, dans le second degré, donc à partir du collège et du lycée, on a des enseignants qui recherchent des ressources disciplinaires avec un jeu qui correspond exactement au point du programme qu'ils souhaitent travailler, alors qu'effectivement, le premier degré consacre le plus de place au jeu dans la classe. C'est-à-dire qu'il va avoir de l'accueil des ludothèques au sein du second degré sur le temps périscolaire, mais la question c'est quel temps on réserve au jeu sur la pratique de classe et quel statut on lui accorde pour servir aux apprentissages. Et qu'effectivement, c'était toute la complexité, et que partir de ces expériences du terrain où on a déjà une pratique et une réflexion des usages du jeu, ça peut être l'occasion d'amorcer cette transition-là. Là, devant les objectifs de ce groupe, en réalité.
Donc, dans ce groupe, en fait, la dizaine d'enseignants, on leur a proposé, en fait, il y avait une entrée, ils ont rejoint ce groupe volontairement. Il n'y a absolument aucune obligation, aucun ordre à rejoindre ce groupe. Donc, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont intrigués, intéressés et qui veulent voir ce que l'on peut faire avec le jeu et le jeu numérique. Donc, quand je dis jeu numérique, c'est pour tout ce dont on a parlé avant, du type jeu sérieux. On s'était dit que jeu numérique était plus cohérent, nous, par rapport au premier degré. Il y a une sorte de connotation peut-être péjorative quand on dit sérieux. Voilà, ça a été traité un peu ce matin. Donc, nous, on préfère dire jeu numérique, et ça nous semblait plus simple. Donc, aux collègues, on a proposé 3 temps, en fait, progressivement. Et là, on est vraiment dans le début, parce que, comme Alexia le présentait, en fait, nous, on débute ce groupe-là cette année. Le premier temps, ça a été de proposer une sélection qu'a faite Alexia par rapport à des besoins du terrain. Donc nous, comme le disait ma collègue Cécile tout à l'heure, en Seine-Saint-Denis, dans l'Académie de Créteil, il y a un plan académique avec des points de vigilance très importants auxquels on doit penser en permanence, et donc la maîtrise de la langue, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations en permanence. Donc on a pris quelques entrées que l'on va dire classiques, français et mathématiques, puisque le projet académique nous demandait de vigilance sur ce point-là et que c'est une nécessité. Et ensuite, on a pris d'autres entrées pour le jeu numérique autour de sujets qui nous semblaient difficiles d'abord de manière conventionnelle. Donc on s'est dit, bénéficions de l'attrait et du plaisir de jouer pour aborder des sujets qui sont parfois résistants. Alors pour nous, hein, dans le premier degré, donc on a fait cette sélection de dire la culture humaniste, par exemple l'histoire de l'art, l'éducation civique, la SSR, c'est la sécurité routière, et les TIS par elles-mêmes, évidemment, elles seront mobilisées en permanence. Donc on s'était dit sur 2 axes, en fait. Un premier axe, Alexia nous a fait une proposition envoyée aux enseignants, avec une sélection. Alors notre but n'est absolument pas d'être exhaustif, c'est d'être plutôt sur 2-3 sélections par thème. L'enseignant va explorer dans sa pratique de classe l'une des entrées ou les 5 s'il le souhaite, et ensuite on fonctionne vraiment comme un groupe de travail où on échange, et le groupe est lui-même preneur, c'est-à-dire que c'est pas du tout descendant. Alexia nous donne un canevas en fait initial, et on a eu nos premiers retours des enseignants, ça a été très rapide, on a envoyé une liste et tout de suite on a eu des retours d'enseignants qui nous disaient: très bien votre liste, super intéressant, moi ce qu'il me faudrait absolument dans ma classe, ce sont des pratiques de jeu possibles sans connexion à internet. Deuxième chose, un collègue de CM1 qui nous dit, en fait, voilà, moi j'ai 7 ordinateurs dans ma classe, donc je voudrais des jeux coopératifs, donc des jeux numériques coopératifs à 4 joueurs. Pourquoi 4 à 4 ou 5, parce qu'il avait 7 fois 4, vous voyez, ça fait presque sa classe, en fait, et il sait qu'il peut faire jouer toute sa classe. Donc nous, on a des retours, voilà, c'est un peu le fonctionnement de ce groupe, on y vient avec des pistes, et ensuite, le retour du terrain est tout de suite très concret, très fonctionnel. Donc on va, là, on travaille actuellement sur quelle grille en interne au groupe on peut se donner pour attrait, point fort, point faible des jeux, pour un CP, pour du cycle 2, pour des CM2, est-ce qu'on peut s'en servir dans le cadre d'une liaison avec le collège, etc., etc. Donc ce groupe est des informations qui descendent par le groupe d'animation, et aussi on reprend de leur part des questions très concrètes d'application pour qu'on garde bien le contact de ce qui est pratiqué dans la réalité de nos classes. Dans un deuxième temps, donc on s'était dit que ce serait un point qui serait de diffuser des informations au-delà du groupe, c'est-à-dire qu'une fois que nous, on aura travaillé entre nous, on va collecter le meilleur de ce qui peut se pratiquer à nos yeux et d'après nos connaissances autour des jeux, et ensuite on le diffuse, premier temps, sur la circonscription, et deuxième temps, avec l'accord de l'UNTIS, en fait, via le réseau des animateurs formateurs TIS, sur tout le département. Notre visée, alors à quelle échéance sera celle que l'on pourra, par rapport à notre charge de travail, ce serait de proposer peut-être une sélection de jeux qui couvriraient ces cinq champs, donc français, mathématiques, et puis trois champs un peu résistants, et de proposer une sorte de scénarisation ludique en faisant un système de points quand la classe a réussi telle mission que va vous présenter tout à l'heure Alexia, par exemple la mission Zygomar. En fait, ça rapportera tant de points, et charge à nous ensuite de mutualiser, de synthétiser les tableaux de score par classe pour qu'il y ait une compétition, une émulation, des retours possibles au sein de groupes dans la classe ou entre les classes. Voilà vers quoi on voudrait tendre. Donc ça serait, en plus, on ne veut absolument pas verrouiller, on veut privilégier une participation plutôt massive. Donc on s'était dit, avec Alexia dans le groupe, de se dire, de proposer non pas cinq étapes successives, mais cinq étapes à franchir dans le sens que veut l'enseignant. Donc on lui donne toute liberté. S'il veut en prendre que trois étapes, il en prendra trois. S'il veut faire les cinq, il en prendra cinq. Et en fait, par étape, on pourra quand même accéder au score proposé pour sa classe. Voilà un peu ce que l'on vise. Là, on n'en est honnêtement que dans les axes 1 et 2, initialement, de commencer à prendre en main, échanger entre nous, se faire des grilles.
Effectivement, je vais utiliser mes collègues du second degré qui ne sont pas dans la salle. Comme ça permettra de forcer le trait. Je vais préciser ce que... Ouais, pardon. Alors, il ne faut pas écouter. Mais oui, histoire géographie. Donc, il faut pas. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'on était centré sur l'intervention des gens. Mais en fait, quand ce qu'Axel appelle un usage résistant, il faut savoir qu'on parle de savoir-faire qui ne sont pas la prérogative identifiée de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est toute la somme de compétences où on n'a pas le temps, il y a le programme. Donc, c'est ça, résistant. Donc, l'idée de varier les modalités, c'est que, bah, justement, le numérique offre des nouveaux possibles avec des nouvelles compétences, des compétences qui sont transversale, sauf que quand on est dans un enseignement qui n'est pas encore transversal, c'est le travail de qui de former, c'est le travail de qui d'éduquer aux médias, qui éduque au développement durable. Donc la proposition qui est faite, c'est que ce soit horizontal et que tout le monde contribue, mais il faut bien identifier. Donc l'objectif, c'est aussi de proposer des jeux et des ressources qui permettent, bah, justement de dire, bah, là il y a un petit dysfonctionnement, parce que c'est compliqué quand on maîtrise pas forcément la langue, de pouvoir s'engager sur d'autres terrains. Et la logique, bah, justement, c'est là où on en vient à des notions intéressantes de comment j'entraîne, comment j'évalue, et que ça commence à poser du doigt les questions, et que ce nouveau type de ressources que sont les jeux numériques peuvent avoir un fort intérêt dans cette démarche.
D'accord. Moi, je complète juste par rapport à ce que tu dis, Alexa, c'est vrai que sur le second degré, pour le côté résistant, c'est aussi des fois des points du programme qui sont difficiles d'accès pour certains enseignants suivant leur formation initiale, mais simplement parce que des fois, c'est vraiment difficile à aborder. La sécurité routière, je veux dire, sauf à la vivre et à aller se promener dans la rue en permanence ou de faire des cycles vélo ou initiation du permis piéton, etc., c'est quand même assez complexe. Or, le numérique va nous permettre d'aborder ça beaucoup plus simplement, de manière évidemment bien plus ludique, avec une situation type simulateur, en fait, simulateur de piéton, simulateur de cycliste, en fait, pour faire simple.
Donc ce groupe de réflexion qui est en train de se constituer a très envie de découvrir plein de ressources nouvelles à tester et à proposer pour en faire une sélection, effectivement, parce que c'est l'occasion d'identifier, ben, avant tout, avant de pratiquer le jeu numérique en classe, de le scénariser, de voir ce que ça peut apporter à nos élèves et comment ça les entraîne à de nouvelles compétences, comment on le choisit, comment on l'identifie, quels critères on fixe, et que ce soit, il faut aussi fournir des repères. Parce qu'on ne peut pas demander à un enseignant qui n'est pas équipé, qui n'a pas les outils, d'un seul coup de basculer, de complètement transformer ses pratiques sans l'accompagner dans cette démarche de formation. Et il y a beaucoup d'enjeux.
Alors, pour donc une petite diapo, en fait, un petit visuel qui va nous servir de trame. En haut à droite, soyez vigilants, ce sont les apprentissages. Nous, comme on est à l'école, on aura toujours comme problématique pour nos enseignants d'avoir des apprentissages de français, mathématiques, etc. Donc là, on a les enjeux, ce qui se passe dans les jeux. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler du numérique. Dans les jeux, on a essentiellement, donc on le dit, hein, le jeu, c'est le travail de l'enfant. On a l'essentiel, ça va être du langage et de la sociabilisation, mais aussi du vivre ensemble, intégrer des points de culture, le respect des règles, bien grandir, et aussi prendre plaisir. Le jeu, typiquement, ça va être tout ce qui permet de faire du lien entre le plaisir et des apprentissages. Si l'enseignant arrive à vivre ça dans sa classe, alors il a tout gagné. Donc en fait, nous, l'enseignant, toujours, il se dit, moi, j'ai le programme, donc ce que tu disais, Cécile, effectivement, donc gardez-le en tête, c'est ce petit icône où vous avez vu que tous les engrenages ne sont pas liés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on sait que par le jeu, avec du plaisir, on peut aborder plein de champs disciplinaires, plein de compétences, mais on ne prétend pas que par le jeu, on fera fonctionner tous les petits rouages des apprentissages qui seront sollicités. On les mobilise, mais pour qu'ils soient construits, stabilisés, on ne prétend absolument pas que ce n'est que par le jeu. Tout doit passer par le jeu. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout ce qu'on prétend. Il faut les deux. On veut les deux. Se priver de la dynamique et des moteurs du jeu serait vraiment dommage quand on est en difficulté ou pour certains publics spécifiques, des élèves qui sont des fois décrocheurs, peu motivés, ou pour au contraire des élèves qui sont très forts et qui s'ennuient beaucoup en classe, le jeu est vraiment qu'un vecteur essentiel, naturel, qui va permettre de solliciter tout le monde. Donc c'est la reprise, c'est sur cette diapo en fait. Avec Alexia, on s'est dit il faut trouver quelque chose de relativement simple à proposer sur le fait que dans le jeu et autour du plaisir, on veut chercher la motivation. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'enseignant, c'est comment en termes de motivation, le jeu va être un accélérateur en fait, une possibilité de mobiliser beaucoup d'apprentissage. On en a listé trois qui sont listés avec plein de noms différents suivant que vous vous placez dans la pédagogie ou dans la psychologie ou dans la sociologie. Mais il y en a un qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait une difficulté. C'est-à-dire personne ne joue à un jeu facile, personne ne joue à un jeu ennuyeux. Donc il faut qu'il y ait une difficulté, on dit défi, obstacle, zone proximale de développement, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui titille l'élève, en fait, qui lui donne envie de relever un challenge. Ensuite, il y en a une autre, c'est l'estime de soi, la réussite, même si elle est partielle, et la reconnaissance qui apparaît en rose. Et donc en reconnaissance, on se dit, vous voyez à gauche en fait l'icône, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous voit réussir à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a souvent la représentation de se dire que quand l'enfant joue, il n'y a personne qui le regarde, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui le regarde, ou en tout cas, si personne ne le regarde, il va aller vite montrer qu'il a réussi quelque chose. Nous, en classe, ça va de soi, hein, c'est évidemment l'enseignant. Le premier qui regarde, c'est l'enseignant, mais aussi ses pairs, parfois ses parents. Quand les enfants rentrent chez eux, ils vont jouer, ils peuvent en parler avec ses parents. Et enfin, donc cette reconnaissance, elle est très importante. Et le troisième point, c'est le plaisir, le désir d'apprendre, donc qui est naturel au jeu. Un jeu qui ne donnerait pas beaucoup de plaisir ne serait pas vraiment un jeu, ne serait plus vraiment un jeu en fait. Alors on est très clair, hein, il ne s'agit pas de se dire que tout relève de la motivation, et absolument en aucun cas de notre part on ne veut prétendre que tout peut être ludifié. Il y a des apprentissages qui sont complexes, sur lesquels en fait il faut aussi travailler. Et sur ce travail-là, c'est des fois ça ne passera pas forcément par un jeu. Donc voilà, on veut juste éviter les simplifications, de se dire tout peut passer par un jeu. Non, des fois il y a des zones de travail en fait. L'élève doit comprendre qu'il y a aussi des efforts, et des fois il s'en rend bien compte qu'il y a des efforts. Mais par contre, de temps en temps, entrer par le jeu serait un vrai plus. Maintenant, par rapport au numérique. Donc ce qui était avant, c'était les trois moteurs de motivation pour des apprentissages. Là, on va prendre un tout petit temps sur les spécificités du numérique. Donc, on garde toujours nos apprentissages, c'est toujours l'enjeu dans les écoles. Et en fait, du point de vue des difficultés, l'essentiel du numérique, ça va être la possibilité de la rétroaction. Donc, la rétroaction, c'est le retour rapide du logiciel. D'accord, l'élève fait quelque chose, le logiciel s'adapte par rapport à lui. Ça, c'est un immense plus par rapport à nos classes. On y a pensé très tôt dans le numérique à l'école concernant les publics en difficulté, des enfants en situation de handicap, mais aussi des élèves qui étaient plutôt de niveau scolaire faible. Nous, ce qu'on se dit dans le groupe, c'est que ça, c'est un point qui est établi, qui est clairement un atout. Mais il y a aussi un deuxième point auquel on pense moins, et peut-être encore moins en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a aussi des élèves qui sont très forts dans nos classes, et qui, comme l'enseignant se doit de s'occuper de tout le monde, y compris des élèves très faibles, se retrouve très souvent à ne pas avoir grand-chose à faire si l'enseignant n'est pas un expert de la différenciation, pour être clair. Et il s'avère que ça se produit de temps en temps, ça se produit même pour tout le monde, avec un peu de fatigue, etc. On peut tout de suite beaucoup moins différencier. Le jeu permet une rétroaction très rapide, y compris, je vais le dire entre guillemets, vers le haut. L'élève très fort, on a des logiciels, des jeux. Contre un jeu, on va pouvoir dire, OK, bah, passe au niveau plus difficile et refais l'activité. Donc on a cet intérêt et cette force de pouvoir proposer des activités aux élèves qui sont les mêmes, le même jeu, le même support qui va mobiliser par exemple des compétences en mathématiques. Les élèves n'ont pas de différenciation en se disant bah, « tiens, le groupe des supposés faibles font une tâche spécifique ». Non, tout le monde joue bien à la même chose, sauf qu'évidemment, le niveau de jeu proposé n'est absolument pas le même. Et il y a plusieurs types de jeux qui, quand ils sont bien conçus, permettent de s'auto-adapter, c'est-à-dire quand ils sentent que l'élève est très rapide, très véloce, en fait, il va d'autant plus vite, c'est-à-dire que chacun travaille bien à son niveau. Donc cette différenciation vers le haut, elle est vraiment très forte. L'attrait pour le multimédia, je vais passer très rapidement parce que ça va de soi pour tout le monde. Comme s'il y a un écran, s'il y a de l'image, du son, etc., les élèves ont un attrait presque naturel pour ça. L'autre point très important, c'est donc le mot neutralité. En fait, par rapport à l'estime de soi, cette fois-ci, vous voyez, on a mis un petit symbole de la pause par rapport au regard de l'adulte. Ça, ça change tout. En fait, les élèves, de l'ordinateur, ils acceptent presque tout, y compris de recommencer quand ils sont sur l'erreur. Donc, le statut d'erreur évolue complètement quand on est face à l'ordinateur. C'est très surprenant. On pourrait très bien se dire qu'au bout d'un moment, les élèves décrochent, en fait, pour l'avoir observé depuis plusieurs années. Il est très rare qu'un élève refuse de recommencer une tâche que l'ordinateur lui repropose. C'est beaucoup moins rare quand c'est l'enseignant qui lui demande pour la troisième fois de refaire une tâche, même si elle est légèrement différente, légèrement améliorée. Je ne dis pas de reproduire à l'identique. Mais en fait, c'est simple fait de la neutralité. Par rapport à ça, ça met en sécurité l'élève. Donc de ça, ça lui permet à l'élève de revenir face à l'erreur, de l'affronter à nouveau.
Je te propose d'avancer.
Vas-y. Donc là, c'est juste sur les points. On reprend les mêmes thèmes et toujours avec notre volonté d'avoir des apprentissages. On reprend le camembert qui est proposé. Donc, des points qui me semblent hyper importants du point de vue des élèves et des enseignants, c'est le fait d'avoir une auto-évaluation possible. Donc, c'est des leviers d'individualisation. Une visibilité des performances, ça fait écho à l'estime de soi, au statut de l'erreur. Donc, le statut de l'erreur est vraiment le point, sans doute, qui est le plus intéressant avec la rétroaction. Et aussi une mesure des acquis. Quand on dit mesure des acquis, ça peut être via le jeu, ça s'appellera un score ou la capture de badge. Mais évidemment, nous, derrière, on peut toujours avoir la possibilité de se dire, c'est le travail de l'enseignant, de se dire, ce jeu-là, je l'ai sollicité parce qu'il permet de travailler telle et telle compétence. Donc nous, on a toujours ce regard de dire, en termes de compétences d'apprentissage, de notre mission par rapport au programme, en fait, quelles compétences je mobilise. Et l'élève, lui, s'il voit un score, s'il est détaillé, c'est très bien pour nous, en fait, ça nous suffira.
Oui, donc justement, par rapport à là, quand on parle de différenciation pédagogique, c'est-à-dire on gère le fait qu'au sein d'un même groupe, tout le monde n'est pas les mêmes niveaux et tout le monde n'est pas les mêmes besoins. Mais ça s'identifie. Donc il faut bien savoir, il faut bien avoir des critères et des éléments pour décider. Dans l'absolu, l'idéal, c'est d'avoir des jeux qui permettent d'avoir plusieurs entrées où l'élève choisit de lui-même son niveau de difficulté parce que ça lui permet de se positionner. Se dire, ben non, j'ai choisi un niveau qui était trop difficile pour moi, maintenant je vais en prendre un qui est plus accessible. Donc là, on est dans le avant, comment on scénarise. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les besoins en accompagnement des enseignants qui, ben, y a un jeu qui est un jeu numérique, c'est une aventure, elle pourrait durer une demi-heure et en fait, ben, savoir comment, je ne vais pas faire forcément les choses sur une demi-heure, mais je vais faire 3 fois 10 minutes parce que là j'ai besoin de m'arrêter et quand est-ce que je choisis de m'arrêter et la musique, est-ce que j'en ai besoin et le jeu, il est en français ou il est en anglais. En fait, on sous-estime quand on a des ressources, le nombre de choses auxquelles il faut penser dans la classe, dans le contexte, l'accompagnement et ça c'est la scénarisation, c'est la manière dont on va utiliser la ressource avant. Maintenant, il y a aussi le après, c'est-à-dire qu'une fois que l'élève a suivi le parcours, qu'il a effectivement joué la partie, je rebondis sur la question de Monsieur Sanchez, comment est-ce qu'on sait qu'ils ont joué ? Le fait qu'ils ont joué, on le sait parce qu'on est fatigué, parce que du coup, on l'a testé en classe, on a bien tout préparé, on a bien conçu avant, on a organisé, on a contacté les collaborateurs, physiquement, ils ont joué. Mais ce qui intéresse l'enseignant, c'est comment on sait qu'ils ont appris. Et c'est là aussi qui est intéressant, parce qu'il faut envisager que dans un monde parfait où il y aurait même un outil par élève, où il y aurait une ressource, une partie, comment fait l'enseignant ? Comment fait l'enseignant pour récupérer cette information ? Donc, et les enseignants ont besoin dans les jeux d'une interface. C'est-à-dire qu'on attribue une place au joueur, mais si le jeu numérique est un environnement d'apprentissage, il faut aussi le penser comme un environnement d'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'enseignant puisse très facilement identifier et paramétrer les variables pédagogiques. Je parlais des variables de son et ainsi de suite, mais il y a aussi les niveaux de difficulté. Quel temps a mis mon élève pour jouer ? Et pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est revenu en arrière ? Est-ce qu'il a fait demi-tour ? Quel est le chemin qu'il a suivi ? Ça, pour l'enseignant, c'est une information dans son accompagnement et dans son enseignement. Et à aujourd'hui, il est extrêmement complexe. C'est-à-dire que dans le cadre où l'enseignant a sa ressource, son matériel, sa connexion, son Wi-Fi, sa tablette et ainsi de suite, donc si vraiment il est super motivé et qu'il est allé au bout de sa démarche, c'est pour ça qu'on réduit les usages. Enfin, il faut être clair, c'est pour ça qu'on réduit les usages. Donc c'est pour ça que le monde travaille, ça vise à lever les obstacles un à un aussi. C'est ça le but, finalement. Il faut faut aussi penser à ça, et c'est pour ça qu'il y a de nombreux critères à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut que l'interface qui accompagne l'enseignant, il soit à la fois assez simple pour être utilisé pour un enseignant débutant dans ses usages du numérique, mais suffisamment personnalisé pour pouvoir faire en sorte que celui qui a des compétences avancées puisse aller loin avec ses élèves. Il faut qu'il puisse voir quel a été le résultat de ses élèves sur cette activité, mais aussi comment sa classe s'est positionnée pour anticiper pour la prochaine fois, et en même temps comment son élève évalue au fur et à mesure de son parcours. Donc c'est tous ces leviers-là aussi qu'il faut penser, il faut lui conférer, je pense effectivement que M. Sanchez l'a bien dit, une place et un statut dans les jeux. Et c'est là aussi où on en vient au type de jeu et aux tâches qui sont attribuées. À l'heure actuelle, nous voyons vraiment un écart entre l'offre de jeux qui existe dans le second degré et dans le premier degré. Mais il y a aussi une différence de perception et de réception dans les jeux. C'est-à-dire que le QCM, alors le petit quiz, la petite activité effectivement qui est conçue, donc là en fait c'est ce qui va être l'exerciceur. Axel l'a très bien dit, il y a au bout d'un moment, l'élève, quand on lui demande 6-7 fois de refaire la même chose avec un papier et un stylo, ça ne fonctionne plus. Et la neutralité du support est très importante. Elle est importante pour l'élève qui va pouvoir en revanche s'entraîner des dizaines de fois à faire ses tables de multiplication. Il est dans le cadre de l'entraînement. Ça soulage aussi l'enseignant qui au bout d'un moment n'a plus forcément les prises et ne sait plus comment le faire. En revanche, les exerciceurs, il faut aussi envisager comment on peut leur donner effectivement plus d'importance dans le sens plus de paramètres, mais à aujourd'hui c'est vraiment ce qui domine, alors qu'il y a plus, il y a besoin de plus de jeux. C'est-à-dire qu'on constate dans le second degré, là où on ne va pas se mentir, il y a aussi de l'intérêt économique, et puis il y a aussi effectivement une offre qui existe déjà, et que donc il y a des moyens qui sont alloués. En revanche, cette offre, elle existe moins dans le premier degré. Donc il faut aussi l'envisager, pas seulement du côté de l'exerciceur qui a ses plus-values, mais aussi du côté du jeu d'aventure qui met l'élève face au savoir. Et là, je rebondis aussi sur ce que disait M. Alvarez, c'est que y a aussi des points de vigilance, c'est-à-dire un jeu sérieux pour diffuser un message, oui, mais l'enseignant doit savoir lequel, parce qu'il ne peut pas proposer n'importe quel message. Un jeu qui permet de travailler des compétences transversales, en fait, en réalité, c'est ce qu'on cherche le plus, parce que c'est lui, en tant qu'expert pédagogue libre, qui va pouvoir avoir un jeu. Donnez-nous un jeu riche avec plein de compétences et ainsi de suite, et nous, on va choisir ce jeu-là, je me sers juste du fond d'écran parce que je le trouve très intéressant comme Angry Birds pour faire de la physique. Proposez-moi un jeu avec une aventure complète et moi, je vais décider si j'en fais des mathématiques ou si j'en fais ça. C'est l'enseignant qui est le pédagogue et qui va choisir. À l'heure actuelle, c'est qu'il faut plus de ressources. Et je termine justement sur un dernier exemple de jeu qui n'est pas forcément un retour de jeu, une préconisation ou quoi que ce soit, mais qui est, nous, en tant que cellule de veille, quand on identifie ce jeu, parce que c'est aussi notre mission, c'est de proposer justement des ressources, quand on le trouve, on se dit « celui-là, il y a des raisons pour que ce soit facile. » Facile pour tout un tas de cas. Premièrement, il est accessible gratuitement en ligne sur Internet. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un navigateur, on n'a pas ce problème quand on a une connexion. Et quand on accède au site internet, on voit Paris Musée, ce qui pour l'enseignant est un repère de confiance parce qu'il se dit que c'est un partenaire qu'il peut identifier, donc ça lui permet d'explorer davantage le jeu. Quand il accède au jeu, il y a directement l'information. Ce jeu est disponible sur application iOS et application Android. Donc il sait que s'il n'est pas dans le cadre de gérer un ordinateur, ça va pouvoir être allé plus loin. Ce qui ne pose pas la question, ce qui pose quand même la question du cas du Wi-Fi, mais au moins il a cette ressource, elle est accessible. C'est un jeu qui est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a une plus-value, il y a des missions qui s'ajoutent, donc au début il y avait 3 missions, après il y en a 4, maintenant il y en a 5, 6, donc en fait c'est une ressource fiable où on se dit en plus on peut aller plus loin, quand on commence à se lancer dans l'aventure, on peut poursuivre l'aventure. Il y a aussi un mode d'emploi pour l'utilisateur, ce qui paraît assez évident, mais en fait c'est jamais le cas, donc pour l'enseignant qui découvre la ressource, il a aussi des repères, lui, qui lui facilitent la vie. Et puis il oscille entre les deux, c'est-à-dire que c'est une aventure complète où on va avoir une carte de Paris, on se déplace dans le métro, puisque l'histoire, c'est des enfants font l'école buissonnière et doivent retrouver tout un ensemble d'œuvres d'art. D'ailleurs, j'en profite pour dire art, parce qu'on a beaucoup parlé des sciences et des mathématiques, mais il y a aussi le jeu sérieux pour l'ensemble des compétences et là, l'histoire des arts. Donc, en fait, l'enseignant a la possibilité d'explorer la maison de Victor Hugo ou de prendre le métro. Et là, il y a énormément de possibles pédagogiques. Dans le terme du retour, du feedback, donc ce qu'on appelait tout à l'heure la rétroaction, il y a une petite collecte où où toutes les informations découvertes sont ajoutées à ce livre. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de pouvoir retraiter la connaissance qui a été découverte dans le jeu a posteriori. Alors que quand l'enfant joue, on ne peut pas lui demander d'identifier le savoir et la connaissance. En revanche, après, on peut revenir dessus. Oh, tu as découvert ça, voyons, rediscutons-en. Et puis, il y a des formes de mini-jeux. Et puis, il y a la grande aventure. Donc, on peut aller directement au mini-jeu qu'on a voulu, ou alors on peut décider de vivre la grande aventure. Et enfin, je terminerai là-dessus, le lien entre le réel et le virtuel. Comme c'est un jeu qui a été développé, notamment et édité par les musées de Paris, bah, c'est intéressant de savoir, est-ce qu'on joue au jeu avant d'aller voir l'expo, après, est-ce qu'on n'y joue pas, on va la voir, cette expo-là, quel est le lien entre le réel et le virtuel, ce qu'on a découvert dans le jeu et ce qu'on a découvert dans la vraie vie, et comment on va transférer les compétences.
Je me présente, Pascal Mériot, donc je suis professeur d'histoire et géographie. Actuellement, je suis en lycée, ça fait à peu près 18 ans que j'enseigne. J'ai fait dans ma carrière un peu tout, du lycée professionnel, du collège. Et puis, voilà, j'ai pu terminer en ce moment de travailler, de continuer mon travail au lycée. Et puis également, à côté de ça, j'assume aujourd'hui la fonction d'interlocuteur académique TIS sur l'Académie de Lyon en histoire et géographie. Donc j'ai pour une mission à la fois de développer des formations auprès de mes collègues d'histoire et géographie de l'Académie de Lyon, et puis en même temps d'être en lien avec les politiques nationales, notamment de la DNE. Mon propos sera plutôt celui de l'enseignant d'histoire et géographie que je suis, de ma pratique que j'ai depuis maintenant 18 ans du jeu, d'abord en tant qu'ancien joueur de jeux de rôle, en tant qu'ancien et toujours joueur de jeux vidéo aujourd'hui. Et de fait, alors j'ai toujours intégré la dimension du jeu, d'abord du jeu de plateau, par exemple ici, autour d'un jeu construit avec des collègues de lettres en collège pour des cinquièmes sur Yvain et Chevalier au Lion, dont vous pouvez reconnaître certaines scènes ici. Et donc ici un jeu de plateau très simple, hein, où on se balade dans l'histoire d'Yvain, où les élèves doivent raconter l'histoire, on joue avec des dés, etc. Vraiment de manière très classique. Et puis dans le jeu vidéo, je commencerai notamment par cette première image, peut-être que certains reconnaissent, qui est un des best-sellers du jeu vidéo mondial d'Ubisoft, Assassin's Creed et toutes ces séries. Alors, que j'utilise, alors j'ai découvert que je faisais du détournement de jeu, puisque les pastilles Peggy, pour revenir à ce matin, de Assassin's Creed, interdisent quand même l'utilisation de ce jeu, je crois, au moins de 18 ans. Mais cette série offre, pour le prof d'histoire que je suis, un fabuleux travail de reconstitution historique. Pour la première version qui est ici, c'était Florence. Puis ensuite, sur la deuxième version, vous pouvez vous balader dans Constantinople du 15e siècle. Et puis pour la dernière version, ce qui est fabuleux, dans le Paris révolutionnaire, alors que j'utilise ici de manière détournée, puisque je ne me bats pas en classe avec mes élèves dans le moteur d'Assassin's Creed Unity, mais je m'en sers tout simplement grâce aux personnages pour observer justement ce que pouvait être Florence ou Constantinople ou Paris. Et quand on fait un cours dans la Révolution et pour se balader dans le Paris révolutionnaire, aller sur la place de Grève par exemple, aller à la prison du Temple, se déplacer dans ces lieux-là grâce à ce personnage, bien ça permet une immersion. En même temps, ce qui est très intéressant aussi, c'est de réfléchir avec les élèves à quelle source Ubisoft a accès, avec qui ils ont travaillé dans la conception du jeu. Et ce qui est intéressant du coup, c'est d'introduire aussi un travail sur la représentation qu'ont les élèves du jeu vidéo, et pour le coup un jeu auquel ils jouent de manière plutôt un shoot'em up, hein, il s'agit d'assassiner tout le monde, hein, mais au contraire, de leur permettre de prendre du recul par rapport à un jeu qu'ils connaissent bien et d'observer justement comment est-ce que l'entreprise a travaillé, en particulier avec un comité scientifique, avec des historiens, et en même temps on peut aussi voir parfois peut-être éventuellement s'il ne glisse pas aussi quelques erreurs. On peut aussi confronter ça avec des reconstitutions et des plans qui existent des villes, par exemple comme Florence à l'époque où elles ont été faites. À savoir par exemple aussi que, on en parlait ce matin, pour diffuser les scènes, j'ai pris une précaution juridique. J'ai contacté les services de communication et juridique d'Ubisoft qui m'ont très gentiment donné les autorisations pour diffuser des séquences du jeu en classe. Donc on peut aussi s'adresser à ces entreprises-là, et en tout cas Ubisoft a répondu présent à ma demande. Alors pour rentrer, ben, pour pour finir peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de jeux, mais finalement on a peu observé de jeux. Alors je vous propose en fait du coup de changer un petit peu mon propos. En même temps, peut-être qu'on retrouvera à travers ce que je vais présenter tout un tas de dimensions qui ont été apportées. Alors notamment l'idée, hein, je reviens sur Yvain, parce que même dans second degré, moi pour moi le jeu a toujours été un vecteur d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Alors même si je sais que les collègues du second degré sont toujours rivés sur leur discipline et leur programme, je pense qu'au contraire le jeu est un excellent vecteur de transdisciplinarité. Avec une autre idée aussi qui m'est chère et que j'ai pas beaucoup entendu également et qui va avec le numérique pour moi, c'est que j'ai jamais conçu le jeu comme quelque chose qui allait être une plus-value dans mon enseignement. J'ai toujours perçu ça comme quelque chose qui me permettait d'engager une démarche pédagogique et didactique qui allait être autre et différente, mais j'ai jamais, et dans le numérique, pour moi, la philosophie est la même, je ne cherche jamais la plus-value, je me demande toujours, cette situation-là, qu'est-ce qu'elle va transformer, qu'est-ce qu'elle va changer, est-ce qu'elle me permet de faire acquérir autrement des savoirs dans une situation donnée, mais pas forcément de me poser la question si ça va être mieux ou moins bien, finalement, dans... Voilà, et on est toujours souvent dans la recherche de la plus-value, et je ne sais pas si c'est toujours le bon chemin à prendre. Alors ici, je vous présente un jeu que je connais bien, alors parce que c'est un jeu qui a été remanié. Alors c'est un jeu qui est vieux, hein, 2005, qui avait été sorti dans le cadre de l'exposition Climax à la Cité des Sciences, qui s'appelle Ecoville, et qui a été remanié par une association lyonnaise, ESPUL, qui ont remanié non pas le principe du jeu, mais l'interface notamment d'algorithmes de calcul du jeu Ecoville, qui est un jeu de simulation qui prend appui en gros sur SimCity, qui est un excellent jeu aussi pour jouer en classe en géographie avec les élèves. Lorsque cette association ESPUL, qui était mandatée par l'ADEME, a travaillé sur cette refonte, elle m'a demandé de participer, puisque moi j'étais déjà utilisateur du jeu en 2005. Ils m'ont demandé de participer à la conception pédagogique du jeu. Donc j'ai une bonne connaissance aussi de la manière dont ça s'est construit à l'intérieur. Hein, et par exemple, les gens d'ESPUL et de l'ADEME n'avaient pas du tout envisagé l'idée, qui pourtant est un élément pour moi fondamental, c'est que tout de suite, quand j'observais le jeu d'Ecoville, pour moi j'ai un territoire, je suis géographe. Enfin, donc forcément l'espace du jeu en géographie, il y a de très bons auteurs qui travaillent là-dessus, c'est un domaine aussi aujourd'hui d'étude de la géographie, l'espace du jeu, et pour moi j'avais tout de suite l'idée que j'avais sous les yeux un territoire, ce qui n'était pas du tout évident par exemple pour les concepteurs du jeu à la base, qui eux voyaient surtout des données qui sont en haut, c'est-à-dire des données de population, de déchets, d'énergie et de gaz à effet de serre, parce que vous comprendrez bien que là le message à diffuser du Serious Game, c'est la question du développement durable. Mais autour ici, il n'avait pas du tout identifié finalement d'un territoire urbain, plutôt pré-urbain. L'idée, en fait, le scénario de départ, hein, c'est une petite bourgade de 1600 habitants qui accueille une gare, qui va devenir du coup un espace périurbain très attractif et qui prévoit un développement de sa population jusqu'à 7500 habitants. Et il s'agit donc d'aménager ce territoire de manière durable, avec tout un tas de possibilités qui sont à la fois très intéressantes ou très aberrantes, hein, et qui posent tout un tas de questions. Est-ce que je construis une piscine olympique, par exemple, dans mon territoire? Parce que je peux construire une piscine olympique, enfin, en tant que maire, je peux m'offrir une piscine olympique, je peux construire un hôpital, tout un tas d'éléments, et qui donc invite l'élève à aménager un territoire ici urbain de manière durable. Et qui pose du coup un certain nombre de questions. Alors là, je rebondis un petit peu sur ce que disait un certain nombre d'intervenants, notamment Eric Sanchez, qui était la question de l'amont, hein, et de la mise en situation. D'abord, l'idée qu'il me semble fondamental d'arriver dans le temps du jeu, qui est un vrai temps de jeu, et qui n'est pas forcément placé sous l'égide du travail. Il s'agit d'abord de placer les élèves dans la situation où on va véritablement jouer. Alors c'est le cas, par exemple, de cette lettre ici qui s'adresse aux élèves directement. Moi, je me mets en position de maire, et quand ils ouvrent les postes informatiques, la première chose qu'ils font, c'est lire la lettre du maire, qui donc mandate ici une expertise particulière de développement de territoire urbain, avec un certain nombre de missions à remplir que j'ai rajoutées par rapport à toute la mallette pédagogique, hein, qui est fournie. Le jeu est accompagné d'une mallette pédagogique entière. Donc ici, j'ai rajouté ces éléments-là. Et puis pour rajouter, moi, du concret, et c'est là où je pense que la question de l'appropriation par l'enseignant est fondamentale, on en a beaucoup parlé, l'idée que l'enseignant doit aussi s'approprier, d'abord lui-même jouer, hein, c'est-à-dire, ça, pour moi, c'est fondamental, il faut d'abord que l'enseignant ait fait le jeu déjà, non, mais c'est la base, pour en exploiter toutes les possibilités, en même temps qu'il n'hésite pas également à scénariser quand il manque de ressources. Donc par exemple, ici, moi, j'ai les enjeux, par exemple, de faire travailler les élèves sur des plans locaux d'urbanisme, civisme pour le futur citoyen et de comprendre qu'il y a un certain nombre de contraintes dans un territoire. Bon, bah, ici, j'ai créé un PLU en me basant sur les vrais PLU de mairie, et j'ai créé un faux PLU pour Écoville que j'ai ajouté en contrainte et qui évolue d'ailleurs au cours du jeu et qui me permet de travailler. Alors, ce qui m'amène aussi derrière, c'est que la phase de jeu, elle se fait. Alors, dans Écoville, on peut perdre, on peut recommencer. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans ce jeu-là, c'est qu'on a autant de territoires urbains qu'il y a d'élèves. Ce qui est très intéressant aussi, c'est derrière la confrontation, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à la phase qui est derrière et que là aussi Eric Sanchez soulignait tout à l'heure, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une exploitation du jeu, il faut qu'il y ait une trace. Alors moi, la trace ici, c'est à la fois d'observer les indicateurs, hein, mais pour moi, c'est plutôt une trace géographique et donc de viser à faire construire. Alors ici, c'est des élèves de seconde hein, qui ont travaillé, parce que c'est un jeu que j'ai exploité en cinquième, en quatrième, en seconde, à tous les niveaux, à tout un tas de moments différents. Donc ici, j'ai des traces d'élèves de seconde qui travaillent sur des croquis. Donc pour moi, c'est aussi un enjeu de savoir-faire en géographie, construire une production graphique qui est évaluée le jour du bac, notamment. Choisir ici, par exemple, des figurés pour représenter un certain nombre d'informations. Là, l'idée, c'est que les élèves viennent ensuite avec leur croquis au tableau pour expliquer quel est leur projet, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place, et ce qui permet en fait de confronter les différents éléments et de montrer par exemple que la question du développement durable, qui est pour moi un des éléments fondamentaux à leur faire intégrer, c'est que c'est une question de choix en partie politique et qu'il y a multiples choix possibles, qu'il n'y a pas forcément un choix qui est meilleur qu'un autre. C'est juste cette éducation-là à laquelle on peut arriver. Alors là, par exemple ici, c'est aussi pour moi une phase d'évaluation parce que c'est une séance qui vient après un travail qui s'appelle Aménager la ville. Alors j'entends évaluation formative, pas forcément avec une... J'entendais toujours la note tout à l'heure, mais pas forcément le cadre de la note. Pour moi, c'est la manière de voir comment les élèves, dans leur vocabulaire et dans quand ils jouent, je les regarde beaucoup aussi. C'est un élément, moi, qui me semble important quand on est enseignant. Ils sont devant le jeu, mais il faut les regarder jouer. Quelles sont les questions qui se posent? Ça collabore beaucoup, hein, même s'ils sont chacun sur une machine, ils échangent de manière verbale, de manière très importante. Et ça me paraît fondamental de les regarder jouer, d'être capable justement pendant la séance de jeu de prélever ces questionnements et d'y revenir ensuite avec eux, et qui permet aussi là d'évaluer, par exemple, ce qu'ils ont acquis en termes de vocabulaire, en termes de notions, et qu'ils vont réinvestir ici dans l'aménagement de leur territoire. Par exemple, ils ont une phase ici, qui est une troisième phase, où ils doivent faire un écoquartier. C'est le moyen de vérifier, par exemple, si la notion d'écoquartier a été validée, c'est-à-dire est-ce que le quartier qu'ils ont construit en dernière phase est bien et correspond bien aux critères qu'on a vus en cours de ce que c'est de ce qu'on appelle un écoquartier, et est-ce que, par exemple, le maire peut labelliser ce quartier-là comme un écoquartier. Et on peut décliner ça alors à tout un tas de jeux. Ici, un jeu qui s'appelle donc fourni par France 5 Éducation sur une ressource vitale, qui me semble tout à fait adaptable au premier degré. Après, tout dépend de ce qu'on y cherche. Hein, mais je pense que, bon, par exemple, ici, moi, je fais travailler des élèves même jusqu'à la seconde dessus, où là, je vais être dans l'identification des échelles, des acteurs, des conflits, des usages. Mais, par exemple, sur les aménagements, je pense tout à fait en classe de 5e, hein, de repérer quel type d'aménagement, pourquoi, individuel, dans quel lieu, etc. Tout est une question d'adaptation après et de scénarisation, encore une fois, de l'enseignant du jeu. Ce que je trouve intéressant aussi dans ces jeux-là, en particulier sur celui-ci, c'est qu'on a accès à des données, y compris dans Écoville, et ça c'est un élément aussi qui me semble fondamental, c'est que les enseignants aient accès, par exemple dans Écoville, on a accès dans la base de données pour l'enseignant à tous les critères qui sont derrière les chiffres. Qu'est-ce qu'on a véritablement derrière? Et ça c'est important pour qu'on puisse aussi formaliser aux élèves. Et qu'on retrouve, par exemple ici, où là on a carrément des bases de données mondiales qui sont accompagnées, qu'on peut croiser avec les situations et qui me permettent après, par exemple ici sur ce jeu-là, de faire un parallèle d'approfondissement avec, par exemple, la gestion de l'eau au Moyen-Orient à différentes échelles. Puisqu'on retrouve des caractéristiques ici, par exemple de celles du bassin du Nil, par exemple. On a d'autres jeux beaucoup plus complexes, comme Clean City, par exemple, ou des jeux très simples à la base, mais qui sont aussi très intéressants pour confronter, on parlait tout à l'heure, de réalité et de virtualité. On a construit ta cité médiévale ou construit ta cité romaine, alors on doit construire une petite cité, après on peut y installer des personnages. Ce qui est intéressant là aussi, c'est de confronter ce que l'élève construit comme cité romaine, par exemple, à... Alors là, il y a de l'information, on a de l'information sur les bâtiments, etc., sur les différentes institutions, où est-ce qu'ils doivent se placer dans une ville romaine, qu'on peut confronter par exemple ici à la maquette 3D de Paul Bigot de l'université de Caen, qui permet d'observer. Et après, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'en évaluation, vous leur donnez une carte. Phidias du domaine des dieux, où vous avez César qui tape sur la table et qui est en train de mettre en place une ville romaine autour du village gaulois pour romaniser le village, hein, que le film a très bien repris. Vous avez une magnifique case où vous avez César qui met. Et là, vous pouvez voir aussi, si vos élèves, ils arrivent à voir que là aussi, Uderzo et notamment ont fait une reconstitution, mais se sont emparés d'un certain nombre de réalités. Est-ce qu'ils retrouvent les bâtiments? Et est-ce que là, votre travail avec le jeu a permis un apprentissage? Donc il y a toujours aussi l'idée d'aller chercher l'évaluation. Très intéressant aussi, par exemple, ici, sur 2025, Deus Ex Machina, quand on travaille notamment, on en parle beaucoup en ce moment, éducation aux médias, Internet, et puis éducation morale et civique, qui fusionne hein, quasiment maintenant, avec cette idée-là de les former. Moi, j'ai axé maintenant depuis 3-4 ans un gros travail sur l'Internet responsable avec mes classes, de travailler avec des jeux comme ça, par exemple, sur comment est-ce que les traces apparaissent 25 ans plus tard, quelles sont les stratégies d'effacement, et là aussi qui sont multiples et qui permettent d'être verbalisées. Il y a cette importance toujours de rentrer dans le jeu et d'en sortir à un moment donné. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans ma pratique quand même, c'est que finalement, et que j'observe aujourd'hui au lycée, c'est que parfois avec les élèves de collège, notamment de 6e et de 5e, il était souvent très difficile de sortir du jeu. C'est-à-dire qu'on était beaucoup dans le jeu, on avait cette phase de jeu, et alors après, arriver avec eux à retirer et à réexploiter le jeu, il y avait un vrai obstacle pour moi en tant qu'enseignant, que je rencontre beaucoup moins au lycée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était un réel problème à ce niveau-là. Donc, voilà, je pense que mon temps va être terminé, donc je vais m'arrêter.
Un grand merci.